L'invité de la rédaction.
Explorons toujours les profondeurs de notre planète que nous y invite Anna Alter, mais cette fois dans la galaxie d'Edgar Keret. Dieu est mort, les anges n'ont plus qu'à ratisser les nuages pour trouver un sourire ou bien finir en enfer. Des anges en échec et qui ne peuvent résister à la tentation d'une échelle infinie pour retrouver l'odeur de la vie, aussi désespérée soit-elle, aussi triste qu'un lapin qu'on ne peut garder pour faire office de père ou d'une caisse qu'on ne peut pas payer pour faire plaisir à son fils. On dit nous, on grandit comme on grimpe dans un arbre, on se sépare et on fume un joint pour s'en remettre. On y repense avec douceur quand on s'envoie en l'air dans un canon, on s'écharpe pour savoir quoi faire de sa mémoire ou encore de sa mère handicapée le jour de la Shoah. Et si on s'échappait tout court, oui, mais pour le plaisir de retomber toujours avec le sourire. Aujourd'hui, pour nous parler du dernier livre d'Edgar Keret, Incident au fond de la galaxie, publié au printemps chez l'Olivier, son éditeur, Olivier Cohen, avec moi dans ce studio et qui sera ainsi un peu lui-même et l'autre. Bonjour Olivier Cohen.
Bonjour.
Merci donc d'être avec nous pour ce portrait en creux, en texte, mais aussi en toute amitié, je crois, avec l'écrivain, auteur de bande dessinée et cinéaste israélien Edgar Keret, célébré aujourd'hui dans plus de 40 pays. Regard rêveur, forgé dans les vagues de Tel Aviv, entre absurde et mélancolie, et dans ce dernier livre, donc singulièrement, Incident au fond de la galaxie, qui a reçu le prix Sapir, le prix littéraire le plus prestigieux en Israël, mais aussi le National Jewish Award. Félicitations à lui et donc à vous. Vous, Olivier Cohen, qui êtes son éditeur, l'éditeur de ses deux derniers ouvrages d'Edgar Keret, « Sept années de bonheur », publié en 2014, je montre tout, et désormais « Incident au fond de la galaxie ». Et l'avantage que vous avez peut-être pour nous permettre de plonger dans cet univers, on peut le dire vibrillonnant de Keret, c'est de l'avoir vous-même découvert en cours de route, puisqu'il était à l'origine publié chez Actes Sud, en France en tout cas. Et c'est de votre rencontre, d'une belle rencontre, je crois, qu'est né le désir de travailler ensemble. Alors, justement, comment avez-vous vous-même rencontré Edgar Keret? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et qui vous a marqué assez fort pour qu'il vous tombe dans les bras et quitte sa maison précédente?
En fait, c'est Edgar m'a appelé, je ne se connaissais pas, et il m'a dit « J'ai deux amis qui m'ont conseillé de vous rencontrer ». Et alors, ces deux amis sont deux auteurs qui sont publiés aux éditions d'Olivier. Le premier, c'est Jonathan Safran Foer. Et l'autre, Gary Steingart, qui sont tous les deux écrivains formidables et très drôles, surtout Gary, qui est vraiment un grand humoriste. Donc on s'est rencontrés à Paris. Et bon, il avait déjà publié plusieurs livres chez Actes Sud. Il n'était pas très très connu en France, mais quand même, il avait une certaine notoriété. Et donc, et en même temps, alors Edgar, c'est quelqu'un de, à la fois de très fantaisiste et très pragmatique. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? J'ai peu réfléchi et je lui ai dit, écoutez, je crois que, bon, on connaît votre œuvre en France, mais on ne vous connaît pas vous. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que les lecteurs français sachent qui vous êtes. Et voilà à quoi on s'est employé.
À le découvrir, manières. Lui.
Oui, parce qu'il mérite d'être découvert, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est quelqu'un de tout à fait divers. Il y a plusieurs Edgar Keret. Hein. Donc il y a le Edgar Keret, je disais, fantaisiste, alors il fait penser. Et il y a une Christine Marcandier, une critique française qui écrit dans Diacritique, l'a comparé à Italo Calvino, vous savez, qui a écrit. Le baron perché, le chevalier inexistant et le vicomte pourfendu. Donc, il y a plein de fantaisie et de folie. Il y a un Edgar Keret plus chaplinesque, je dirais, ou plus beckettien, parce qu'il dit toujours que ses héros sont des ratés, qu'il est lui-même un raté. Et j'ai plus une fois cité cette phrase même... mémorable de Samuel Beckett dans, je crois que c'est dans Cap au pire, qui dit « Ratez, essayez encore, ratez encore, ratez mieux. » Alors il m'a dit « Ah ça c'est tout à fait moi. » Donc c'est l'anti-héros, si vous voulez. Hein. Il aime les anti-héros, il se projette beaucoup dans ses personnages. Il y a un côté mélancolique aussi chez lui, et puis côté politique aussi, qu'on trouve plutôt dans son livre précédent, les Sept années de bonheur, qui est une sorte de chronique de la vie quotidienne en Israël, qui est vraiment formidable. C'est vraiment un des meilleurs livres littéraires sur Israël que j'ai lu de ce point de vue-là.
Et oui, justement, c'est ça qui est agréable avec l'existence, et que ce premier livre que vous avez édité d'Edgar Keret, c'est cette année de bonheur, puisque sur cette figure de l'anti-héros et cette idée qu'il s'agissait de le découvrir, c'est un livre extraordinaire aussi pour le découvrir lui en tant qu'homme, puisqu'il se met une dimension autobiographique certaine qui parcourt et qui en tout cas teinte ce livre d'une sincérité énorme, et où on découvre cette manière d'aborder les choses. Je le cite là: c'est par un rêve que tout a commencé. Dans ma vie, des tas d'ennuis commencent par un rêve, et d'ailleurs s'ensuit un rêve très angoissant un rêve d'ailleurs qu'analyse tout de suite son ami Uzi comme étant justement le reflet d'une personnalité contrariée, aspirante au bonheur, mais rattrapée forcément. Je le cite, ça c'est la, je cite l'analyse de son pote Uzi, qui connaît bien Edgar Keret aussi, donc on va voir comment il le décrit. Toi, t'es de la seconde génération, qu'il m'a dit. Tes parents ont été contraints de quitter leur pays, leur foyer, l'environnement social qui leur était naturel du jour au lendemain. Cette expérience angoissante s'est transmise de la conscience anxieuse de tes parents à la tienne, qui s'est ainsi trouvée angoissée dès l'origine. Si tu ajoutes à ça la précarité de nos existences au Proche-Orient et le fait que tu es un jeune papa, en remuant le tout, qu'est-ce que tu obtiens? Un rêve qui rassemble toutes ces peurs, la peur d'être déraciné, de débarquer étranger dans un pays inconnu, d'être contraint de bosser dans un domaine qu'on ne connaît pas et qui ne nous convient pas. Tout est là. Donc Uzi, nous place directement.
Mais Uzi, c'est lui. Hein.
Uzi, c'est lui aussi. Bah oui, tous les personnages sont un peu Keret, mais on voit la contradiction dans cette année de bonheur. On voit un homme qui goûte au bonheur, qui un homme amoureux, un homme pour qui justement ses relations familiales, ses modèles sont extraordinairement puissants et chaleureux, et en même temps rattrapé sans cesse par la figure de l'angoisse et de la perte et de la séparation toujours possible.
Alors ça, je dirais, c'est son côté Kafka. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on trouve très souvent dans ces nouvelles, c'est la solitude. Alors, lui-même n'est pas du tout un solitaire, et il a une famille, des amis, mais je pense que c'est une solitude métaphysique, si vous voulez. Hein, Il y a un très beau livre qui s'appelle, de Gustave Janouche, qui s'appelle Conversation avec Kafka. C'était un étudiant que le père de Kafka lui avait envoyé. C'était un ami de lui, enfin bref, peu importe. Et c'est un très beau livre parce que ce sont des verbatims, c'est les seuls dont on dispose, de la manière dont Kafka pouvait s'exprimer comme ça au jour le jour. Et alors, Franz Kafka avait offert à ce jeune homme la métamorphose qui venait de paraître. Et donc, Gustave Janouche lit ce livre, qui est très court, bien sûr, et quelques jours après, il se retrouve, et il est complètement bouleversé. Il dit à Kafka: mais c'est terrible, le sentiment de solitude qui se dégage de ce livre. Vous êtes très seul, vous êtes seul, seul comme Kaspar Hauser, qui était un... Vous savez, c'est une histoire de Kaspar Hauser, c'était celle d'un orphelin, petit idiot d'ailleurs, qui a fait l'objet de plusieurs livres, et qui est un peu légendaire. Et Kafka me répond: non, pas seul comme Kafka, comme Kaspar Hauser, seul comme Franz Kafka. Alors, c'est à ça parfois que me fait penser Edgar Keret, dans des moments de gravité, mais ce sont juste des moments, parce qu'en général, il est plutôt dans une forme d'humour assez déjanté, parfois même d'humour noir, ou je disais de fantaisie complètement débridée et parfois même délirante.
Mais on va y venir justement, mais c'est dans ce lien qui peut se faire entre cette année de bonheur et Incident au fond de la galaxie. Cette figure, justement, ce rapport à la solitude, ce rapport existentiel, il bâtit en même temps qu'il écrit, semble-t-il, une manière d'en parler, une manière d'être qui, justement, rende cette solitude un peu supportable. Et là, je cite à nouveau peut-être une de ses sources qui apparaît dans cette année de bonheur. où il nous écrit « Quand je tente de reconstruire ces histoires que me racontait mon père voilà tant d'années, je me rends compte qu'au-delà de ces intrigues fascinantes, elles étaient destinées à faire mon éducation, à m'apprendre quelque chose du désir non pas d'embellir la réalité, mais de ne jamais renoncer à trouver un angle qui mette la laideur sous un meilleur éclairage et suscite affection et empathie pour les verrues et les rides du visage. Mmh. » L'amour de la verrue, c'est une manière de combattre la solitude et oui, la mort.
Il parle souvent de son père, de diverses manières. Et d'ailleurs, il a, avec sa femme, Shira, il a écrit une série télévisée qui a été diffusée, produite et diffusée par Arte récemment. Je crois que d'ailleurs qu'on peut toujours la voir en replay.
Alors malheureusement, pas gratuitement.
Ah bon, dommage. Et c'est l'acteur principal de la série, c'est
Mathieu Amalric.
Et il y a le personnage du père, qui est joué étrangement par Eddie Mitchell, et qui joue un rôle très, 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 très important. Comme dans ses histoires, et je pense comme il a été important dans sa vie. Mais c'est un personnage complexe, parce qu'il est à la fois, comme beaucoup de personnages de Kéréte, mais peut-être c'est effectivement une espèce de matrice quoi, d'autres personnages, il est à la fois sérieux et pas sérieux du tout. Il lui transmet des choses importantes, et en même temps, dans la série, par exemple, il joue au poker avec des types un peu bizarres, enfin, il fume alors qu'il ne faut pas qu'il fume. Enfin, c'est un père plutôt transgressif.
Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi, en abordant maintenant l'univers et cette galaxie d'incidents au fond de la galaxie, donc, c'est qu'on a quand même la sensation que un fil narratif comme ça se retourne un peu. C'est-à-dire que si cette année de bonheur nous donnait la sensation que sous le bonheur, l'angoisse, c'est l'incident fond de la galaxie, c'est sous l'angoisse, l'espoir encore. Mais c'est on retourne quand même un peu, parce qu'incident, c'est quand même globalement une galerie de personnages très accidentés, très au bord de la route, qui sont beaucoup plus des figures du déraillement, de ce qui justement est incontrôlable et qui ne répond même pas à ce qu'aurait souhaité Uzi, justement, à savoir placer son argent dans un... Il n'y a plus de solution.
On a eu une petite controverse sur le titre, parce que en fait, il disait, mais c'est pas un incident, c'est un bug.
Oui, ça.
Et je disais, oui, mais bug, c'est pas très joli. Et puis finalement, il m'a dit, bon, d'accord, très bien. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche, vous voyez. La vie, dans la vie, il y a toujours quelque chose qui cloche. Et on s'en sort comment ? Grâce à l'imagination. Et l'imagination des personnages qui sont plongés dans ce livre, dans des situations parfois inextricables, mais aussi son imagination à lui. Parce qu'en fait, il vit de ça. Il vit pour ça. Il y a une partie de sa vie qui est consacrée à l'écriture, la création. Il écrit beaucoup. Des nouvelles, des chroniques, des films, et puis cette imagination, il l'a aussi dans la vie parce que il dort très peu. et parfois je reçois des mails à des heures invraisemblables, et il a un agent très important, un des plus grands agents américains maintenant, Arnaud Wiley, mais il est aussi son propre agent par exemple, avant la publication d'Incident au fond de la galaxie, ou plus exactement au moment de sa publication, les librairies en France ont fermé.
Ah oui.
Et d'ailleurs, c'est un miracle ce qui s'est passé avec ce livre, parce que grâce aux libraires, je dois le dire, et grâce aussi aux journalistes, aux critiques, ce livre vit vraiment. Hein, il a des lecteurs, il se vend bien d'ailleurs. C'est même assez incroyable. Et alors il m'avait dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors il m'a envoyé des textes inédits en me disant, est-ce qu'il n'y a pas des journaux en France qui seraient d'accord pour publier ces inédits. Et donc je m'en suis vraiment occupé. Il me téléphonait, il me disait, alors t'en es où, etc. T'as essayé Libération, Le Monde, etc. Oui, je vais appeler le Nouvel Obs. Et finalement, ça a marché. Mais ce n'était pas la première fois, hein, parce que déjà, à l'époque de cette année de bonheur, j'avais organisé une sorte de conversation à distance par mail entre Edgar et un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Saïd Kachoua, qui est un arabe israélien et qui s'était expatrié aux États-Unis, la grande tristesse d'ailleurs, et celle de tous ses amis, parce qu'il était vraiment loin. Et on avait fait publier dans Le Monde un échange de mails absolument formidable entre eux. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui est très dans la vie, quoi.
Oui, dans cette énergie-là, c'est-à-dire finalement cette manière de se rattraper. Je disais, voilà, dans l'incident au fond de la galaxie, même si, et le bug était pourrait être nous permet aussi d'éclairer ça, c'est-à-dire c'est dans un monde qui déraille, comment se raccrocher, comment, voilà, et finalement faire preuve d'une énergie et effectivement celle du désespoir ou pas, mais qui permet quelque part de rester dans une forme d'équilibre et dans cette position, alors certains diraient de l'homme canon, hein.
Oui, puisqu'il joue à un moment donné, il y a un personnage qui est dans un cirque, qui est tiré par un canon comme un obus. Oui, mais enfin bon, je ne vais pas
gâcher
en racontant.
Mais il y a ces mouvements du ciel vers la terre, de la terre jusqu'au ciel, cette notion justement d'échapper, et quand bien même on n'y échappe pas, au destin tragique de l'histoire, il y a toutes ces figures qui s'agitent sur un fond effectivement quand même très noir. Je veux dire, l'ensemble des situations mérite souvent d'être découvertes pour leur noirceur
Échapper à la pesanteur, parce que ça, c'est un de ses grands talents, c'est sa légèreté. C'est-à-dire, il me fait penser parfois à Chaplin. Vous voyez, c'est un type qui fait des pointes, ou qui fait, c'est comme dans cette scène célèbre de Chaplin qui fait du patin roulette dans un grand magasin, et dont on pense qu'il va tomber à tout moment. Et en fait, il tombe, mais il se rattrape.
Et est-ce qu'on pourrait le rapprocher, selon vous, Olivier Cohen, de cette vous dites échapper à cette pesanteur aussi de l'histoire, parce que la mémoire et tout la question de la mémoire est très prégnante aussi, comme ces allers-retours, justement par touche dans cette année de bonheur, mais dans Galaxie, on a l'impression vraiment que c'est cette terre, c'est-à-dire cette terre d'Israël qui lui rappelle en permanence, et on voit justement le numéro d'équilibre, le numéro de danseur, c'est celui qui va lui permettre un peu de tout oser, effectivement, vous vous soulignez son humour, mais un couple par exemple se quitte en parlant de suite à un avortement, alors même que tout en visitant un monument justement à la mémoire des enfants juifs tués pendant la Shoah. Il y a une histoire de clone aussi, d'un clone d'Hitler qui va se retrouver à ne plus savoir s'il ne s'appelle pas Albert. Alors même
ça, c'est l'histoire la plus délirante du recueil, clone de Hitler. Oui.
Mais il y a des nouvelles proposent ces formes comme ça de télescopage avec le plus dur, le plus justement au sens littéral du terme, l'indépassable, et en même temps justement ces formes d'écriture, d'humour, de ce regard qui va l'envelopper dans une forme de pirouette comme ça, en se disant eh oui, peut-être que en fait dans une autre vie Hitler s'appelle Albert.
Oui, mais je pensais à Chaplin, parce que bon, Chaplin était un génie, et je pense que Pierre serait un peu gêné de ma comparaison, parce qu'il n'est pas particulièrement modeste, mais il n'est pas arrogant non plus.
Vous avez dit un portrait en toute amitié.
Oui, parce que il y a ce mélange de profondeur et d'humour, et parfois un flirt avec des rapprochements qui sont presque impossible, comme celui que vous venez de citer. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur du mauvais goût, si vous voulez.
Oui.
Et c'est une chose qui me plaît beaucoup chez lui, parce que je n'aime pas le bon goût, le bon ton, et je pense que la création se moque du bon goût.
J'hésite, mais c'est vrai que c'est irrésistible d'avoir envie de le citer, et notamment puisque justement dans cette chronique qui nous propose entre différents univers et à ces formes de télescopage, il y a cet échange en fait qui s'appelle littéralement Incident au fond de la galaxie, du nom d'une escape room, donc d'une activité justement d'intrigue et de manière de s'échapper à la suite par l'activité justement de résoudre différentes énigmes. Il y a deux personnages dans ce livre qui vont s'échanger. C'est Sefi Moret, qui est le directeur de cette escape room, et Mireille Warchowski, qui demande littéralement à ce que sa mère donc puisse participer à cette activité pour s'échapper du jour de la Shoah. Donc je vous lis un extrait parce que c'est finalement un des fils. Cher Sefi Moret, donc c'est Mireille Warchowski qui écrit au directeur de l'escape room. D'après votre nom de famille hébraïsé, difficile de reconnaître vos racines. Moret vient-il de l'erreur ou bien de moi l'âme? En ce qui me concerne, la situation est claire et nette. Mon nom est Warchowski parce que ma famille est originaire de Varsovie et ma mère est en fauteuil roulant parce que les nazis l'y ont mise. La commémoration de la Shoah lui est particulièrement pénible. Son cerveau est submergé de souvenirs que tout être humain aimerait oublier, mais elle aime les énigmes et l'astronomie. J'ai pensé lui faire essayer votre escape room avec l'espoir que la résolution d'énigmes lui changerait les idées et atténuerait sa souffrance. Mais si je comprends bien, d'après votre vision du monde, mis à part le fait qu'il vous offre un congé agréable à vous et à vos associés, le jour de la Shoah ne permet pas à une survivante d'échapper à ses souvenirs douloureux. Ainsi, notre rôle en tant qu'Israélien est d'enfoncer, dans une coordination parfaite, un doigt insensible dans la blessure sanglante causée par la Shoah chez ma mère, de la titiller, de sorte que son cri de douleur se mêle à la sirène du souvenir. Avec mes souhaits d'un jour de la Shoah qui ait du sens, Mireille Warchowski. Alors, je ne dis pas comment tout ça finit, mais on est... Mais peut-être quand même un retournement à envisager, c'est qu'au final, ces deux personnages sont peut-être, non pas seulement des Israéliens, mais des extraterrestres. C'est-à-dire que les Israéliens sont peut-être une forme d'extraterrestre pour Edgar Keret. Vous pensez que c'est le fond de sa pensée que de nous renvoyer en fait à cette...
C'est un des fonds de sa pensée, je dirais, parce que c'est une pensée à double ou à triple fond. Mais disons que oui, c'est un des avatars de
Aujourd'hui, il est célébré justement en Israël, il est considéré comme une de ses voix principales, il reçoit les plus grands prix. Quel regard ce chroniqueur de la vie israélienne, justement dans toutes ces contradictions, dans toutes ces violences aussi, dans toutes ces divisions et en même temps avec ce geste justement, quel regard porte-t-il sur ce succès et au fond sur sa vie en Israël?
Il est très content, il m'a dit qu'il avait été surpris parce qu'il s'était habitué à ce qu'on ne le prenne pas vraiment au sérieux. Il y a de grands écrivains très importants en Israël de nos jours et ils ne se considéraient pas comme vraiment du même niveau, si vous voulez, hein. Ou ils n'étaient pas vraiment considérés comme tels. Et donc ça l'a surpris et je crois qu'il en est très heureux. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui déteste la pose et les poseurs. Et plus d'une fois, j'ai remarqué que dès qu'on abordait avec lui sa notoriété, son statut, etc., il faisait toujours une blague qui signifiait qu'il n'était pas dupe, hein, et que le piège, c'est de se prendre pour un grand écrivain. Et,
national.
Oui, absolument. Et par ailleurs, il a un regard extrêmement critique sur la société israélienne, sur la politique israélienne. Ça lui a même créé des problèmes. Parce qu'il a pris plusieurs fois des positions qui lui ont valu des menaces à son encontre ou à l'encontre de sa famille, hein, de sa femme, son enfant. Il l'a pris très très au sérieux. Et il me semble que l'espèce de désinvolture avec laquelle il accueille son rôle et son statut d'écrivain, c'est ce qui lui permet aussi de garder sa liberté de ton et de parole. C'est quelqu'un qui, je crois, il serait très difficile de le réduire au silence.
Oui, cette défense, cette résistance de la liberté, mais d'ailleurs, et cette lucidité. Et je lisais quelque part qu'apparemment, il a plutôt bien vécu le confinement, mais quand même, ce que ça lui a inspiré comme, 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 comme écrit, c'était d'imaginer finalement qu'au déconfinement, les gens refuseraient finalement de ressortir dans la rue et que l'armée finirait par venir les forcer d'être libres, pour ne pas citer Rousseau, mais qui viendrait comme ça les jeter dehors et les obliger à retrouver la société d'antan, alors que les gens auraient réalisé entre-temps à quel point elle était abominable. C'est très kérécien d'imaginer un déconfinement impossible.
Oui, c'est-à-dire...
Et la violence potentielle.
Oui, et puis ça consiste aussi à pousser un raisonnement, une logique jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'absurde. Et quelque chose qui lui est très familier. Mais d'ailleurs, plusieurs critiques ont dit exactement, en France en tout cas, ont dit exactement la même chose à propos de ce livre. Ça fait du bien de lire ça en ce moment. Alors c'est intéressant de se demander pourquoi, dans des moments comme ça d'anxiété, des moments où la vie n'est plus normale, si vous voulez, quelque chose de profondément anormal nous tombe dessus, pourquoi est-ce que ce type de littérature fait du bien? Parce que en général, on associe la littérature qui fait du bien, feel good, à un mélange de, enfin, une espèce de kitsch sentimental fait de clichés qui sont censés vous consoler. Or, les histoires que raconte Kéret ne sont pas du tout consolantes. Et comme dans ce passage que vous avez lu, il appuie là où ça fait mal.
Toujours, oui.
Mais curieusement, c'est un mal qui vous fait du bien. Et je ne vous dirai pas pourquoi, mais d'ailleurs je n'en sais strictement rien, mais peut-être il n'y a pas d'explication. L'explication, c'est ce qu'il écrit au fond.
Et vous, Olivier Cohen, pour terminer, vous-même, sorti de confinement, vous m'avez dit que vous refusiez justement... Enfin, vous n'aviez pas très envie de parler de la crise et justement de ce terrestre gluant qui parce que l'intérêt, justement, l'important, c'était de continuer de croire en ce mal qui nous fait quand même du bien, à savoir quand même la littérature. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Qu'est-ce que vous avez envie de publier aujourd'hui?
Alors, écoutez, on prépare la rentrée de littéraire, la rentrée d'août septembre, mais on vient de commencer à publier une œuvre monumentale, c'est les œuvres complètes de Roberto Bolaño, qui était un grand écrivain sud-américain, chilien, dont une bonne partie d'ailleurs de l'œuvre avait déjà été publiée par les éditions Christian Bourgois. Et là, on publie beaucoup d'inédits, des romans, des poèmes. Enfin, c'est une entreprise un peu folle qui va faire près de, je sais pas, 8000 pages ou quelque chose comme ça, en 6 volumes. Et ça, c'est assez exaltant. Voilà. C'est une des choses qui me plaisent en ce moment. Outre la préparation de cette entrée littéraire, c'est ce grand chantier. Il y a déjà 2 volumes qui ont paru. Le troisième paraîtra en octobre.
Et bien finalement, une éloge du courage, qu'il soit celui d'Edgar Kéret ou ceux à venir des publications, des éditions de l'Olivier. Mais je vous rappelle donc... L'ouvrage à lire, c'est Incident au fond de la galaxie d'Edgar Kéret qui a été publié donc aux éditions de l'Olivier.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.